Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Écoutez RDIWA 107.5. La pensée des peuples vous embarque sur, sous, dans l'eau. L'eau qui est en nous, l'eau qui nous berce pendant 9 mois, l'eau qui nous hydrate et l'eau qui nous attire au voyage. L'eau est le sang de la terre, le support de toute vie. L'eau est le miroir de nos cœurs. L'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Quand le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets, homme. Nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteur éternel, ô frère implacable. Charles Baudelaire, dans Les fleurs du mal. Conte du Pacifique d'Henri Gougeot. Un peu de soleil dans la mer. Un jour, 6 pêcheurs dans leur pirogue s'en vont à la pêche aux dauphins. Ils rament dans le lagon bleu. Ils chantent, le visage ensoleillé, pour se donner du cœur. Et voilà que le premier, à la proue de la barque, tout à coup se dresse tout droit. Il vient de voir là, sous les vagues, quelque chose d'étincelant, qui l'émerveille. Mes amis, dit-il, je crois que je viens de découvrir un trésor de nacre. Ramez à l'envers, arrêtez la pirogue, il faut aller le chercher. Les 6 hommes se penchent sur la mer, ils regardent les yeux écarquillés, les mains, en ovant sur le front. On dirait en effet qu'un objet brille au fond de l'eau. C'est vrai, disent-ils, tu as sûrement raison, ce doit être un trésor de nacre. Celui qui l'a vu le premier se retourne vers ses compagnons. Attendez-moi, dit-il, je vais le chercher. Il plonge, il nage sous les vagues aussi profond qu'il peut. Puis il remonte, son visage émerge sur l'eau. Ruisselant et dépité, il n'a pas pu atteindre le trésor, alors il dit « Revenons au rivage, allons chercher des pierres et des lianes. Nous attacherons ces pierres à nos pieds. Ainsi, nous pourrons descendre au fond de l'océan. Jusqu'à cet objet qui brille, jusqu'à cette nacre merveilleuse. » Ils font ainsi et ils reviennent. Le premier, alourdi de cailloux, se laisse glisser dans l'eau bleue. Les autres dans la pirogue le regardent descendre et disparaître. Puis ils attendent. Au bout d'un moment, un homme dit « Maintenant il devrait être revenu. Ce trésor doit être trop lourd pour lui seul, je vais l'aider. » À son tour, il descend, une pierre à chaque pied. Quelques minutes passent. Dans l'eau transparente, ne monte plus la moindre bulle d'air. « Ils sont en train de se noyer, disent les hommes. » Décidément, ce trésor doit être colossal, il faut aller les aider. Ils descendent, les uns après les autres, sous les vagues. La pirogue vide se balance sur la mer. Les hommes ne remontent pas. Aucun n'est jamais revenu du fond de l'eau pour raconter la fin de l'histoire. Mais je vais vous la dire, elle est simple. Ces hommes avaient pris pour un trésor de nacre un rayon de soleil. Un simple rayon de soleil qui jouait dans l'eau bleue.
Yeah. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades, mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais les chimères comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève qui persévère dans chaque verre en rêvant. Je lisais sur leurs lèvres couramment les signes du langage, des signes de l'étang. C'est ma force sans alarme, moi je vis dans les eaux calmes, simirant le narcissisme des étoiles. Elle parle à mes iris, mettre la lumière dans mes oreilles. Fille du pancalisme, les chimères devinrent réelles. Unique beauté du ciel, dans un monde de fiel. Unique sucré du ciel, sur la voie lactée de miel. Et puisqu'elles aiment les rêveries solitaires du ruisseau, les constellations s'isolent et reflètent les songes dans les cours d'eau et marécages. Les reflets de la lune sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies de la lyre sur les couleurs des images. On vit les cieux se couvrir avec le temps des orages venir. Les tristes cires matérialistes qui songent à définir pour oxyre la liberté des songes à l'avenir. Le rêve devient étrange. Cassandre ne prédit plus dans l'eau. Oublie tous les destins et au descendre du bateau morphée et clandestin. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Yo. Yo. Fils de la nuit et des rêves, moi je cultivais l'amour comme un talent. Les nymphes m'avaient pour élève et les naïades pour amant. Car j'embrassais leurs lèvres couramment. Dessine avec des mots leurs mains au creux des lettres et leur corps contre mon être. L'intime, langage des abîmes de l'océan. Je vis dans les eaux profondes se troublant. Les filles de l'érotisme comme Vénus dans le ciel. Unique beauté à celle que j'imagine dans ce monde de fiel. Unique sucré du ciel surplombe des mers salines et des déserts de sel. Et puisqu'elle n'aime pas être seule comme mes salines, les constellations s'allient et reflètent mes mirages comme des gouttes de lumière sur le miroir des rivages. Mais la pluie vint ternir avec ombre et nuages. Les mélodies d'amour mirent des notes un peu plus sages. On vit venir avec le temps des orages. Les tristes cires moralistes qui savourent à définir pour oxyre la liberté d'amour à l'avenir. Les cœurs deviennent étranges, blessés dans son talent cupidon. On imite plus le comanche, plus de péchés mignons et d'Aphrodite qui s'allonge. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
C'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau. Mais c'est juste une histoire d'eau.
Juste une histoire d'eau.
C'est juste une histoire d'eau. Une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau. C'est juste une histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil du ruisseau. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui ses amours ruisselants. Se remplissant de colère, elle deviendra océan jusqu'au rabord. Il n'existe pas pire que l'histoire d'eau qui s'aiguille sur le fil des cascades. Mais de fil en aiguille, ôtez-lui les rêves où elle s'évade. Elle deviendra un précipice agressif sur chaque bord. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort. Il n'existe pas pire que l'eau qui dort.
Que l'eau qui dort.
Eau de vie. La naissance, c'est une source qui jaillit de la montagne et autour de laquelle la nature resplendit. L'enfance, c'est un filet d'eau qui bondit de toutes parts, sans pouvoir échapper à l'appel de la vallée. L'adolescence, c'est un ruisseau qui cherche son lit, au milieu des rochers et au milieu des prairies. L'âge mûr, c'est une rivière qui grandit lentement, mêlant parfois son flot à celui d'une autre rivière, pour être toutes deux plus fortes et pouvoir aller plus loin. La vieillesse, c'est un fleuve qui coule paisiblement, repensant à son long périple depuis cette lointaine montagne. Mais, quel que soit le fleuve, la rivière ou le ruisseau, le filet d'eau ou la source, ils arrivent tous, tôt ou tard, là où tant d'autres sont déjà allés, là où tant d'autres se sont déjà retrouvés, dans l'océan. Cyprien Raffaère.
Oh. Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sur la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font de la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit c'est l'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage,
il finira dans la poêle.
Oh non, sous l'océan, sous l'océan, y'a pas de gros bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non, sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan,
sous l'océan,
sous l'océan.
La vie est super, mieux que sous la terre, je te le dis.
Oui, je te le dis, hi, hi. Tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae.
On a le rythme, c'est de la dynamique
sous l'océan.
Friton, oh friton, la carjoula,
la Westcast, la basse, les rois du rap,
Marco, au saxo, le turbo, au bango, le lieu est le dieu de la soul. La raie, oh dieu, mais le garçon, au violon, les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton, le bas et le soir se marre et s'éclate. Vas-y, souffle mon doudou.
Ils
ont le sable, ça c'est certain. Nous le jazz band et les copains. On a les crimes clams pour faire une gym jam sous l'océan. Les limaces des verres au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigornos pour donner le tempo. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe pour que ça balance sous l'océan.
Il était une fois un bateau qui était sur la mer. Lui, il a sauté avec ses roulettes. Il est allé jusqu'en haut. Il a renversé tous les nuages sur le désert et il a fait une mer qui était encore plus belle de toutes les mers roses.
Mirzan est le roi du fond des eaux. Conte très merveilleux de Praline Guépara. Il y avait autrefois une pauvre veuve qui avait une fille d'une grande beauté, nommée Mirzan. Un jour, Mirzan va se baigner à la rivière avec un groupe de jeunes filles. Elles ôtent leurs vêtements et plongent dans l'eau fraîche en riant. L'une d'elles regarde Mirzan et dit en se moquant « Tu es si belle, Mirzan, que si le Khan te voyait, il te dirait « Mirzan, ma merveille, je te donnerai tous mes trésors, si seulement tu acceptais d'être mienne. » Mirzan sent ses joues se teinter de rouge. Gênée, elle baisse les yeux et répond. « Pourquoi me taquinez-vous ainsi? Comment le Khan pourrait-il me voir? Je suis la fille la plus pauvre du campement. » À peine a-t-elle fini de parler que les vagues ondulent à la surface de l'eau. Et, venue des profondeurs de la rivière, une voix puissante résonne. « Mirzan, ma merveille, je te donnerais tous mes trésors, si seulement tu acceptais d'être mienne. » Terrifiées, les jeunes filles regagnent la berge en se bousculant. Elles saisissent leurs vêtements et partent en courant. Elles oublient Mirzan qui, pétrifiée, ne bouge pas. Elles observent, fascinées, un immense serpent qui sort de l'eau. Il se glisse sur la rive et se love sur sa robe en formant 7 anneaux. Le serpent dresse la tête et regarde la jeune fille dans les yeux. « Mirzan, ma merveille, je suis le roi du fond des eaux. Je t'aime plus que ma propre vie. Si tu acceptes d'être ma femme, je t'offrirai mon palais de cristal. Si tu promets de m'épouser, je te rendrai ta robe. Et si tu refuses, j'emporterai dans mon royaume, au fond de la rivière. Et que feras-tu alors ?» Mirzan est paralysée de peur. Elle promet au serpent de l'épouser. Celui-ci disparaît aussitôt dans les profondeurs de la rivière. Il laisse derrière lui des cercles concentriques, de plus en plus larges à la surface de l'eau. Les vagues claquent sur la rive. La jeune fille tremble de tout son corps. Elle réussit tant bien que mal à enfiler sa robe et à regagner sa hutte. Elle se jette aux pieds de sa mère, éclate en sanglots et lui raconte ce qui vient de lui arriver. « Qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai promis de l'épouser, comment revenir sur ma parole ?» Sa mère la serre dans ses bras et tente de la consoler. « Cet horrible serpent t'a terrifiée, tu ne sais plus ce que tu dis. Arrête de trembler. Une jeune fille qui épouse un serpent, on n'a jamais vu ça. Ces choses n'existent que dans les histoires. Reste à la maison et ne sors plus. » Les jours se succèdent et se ressemblent. Mirzan ne met pas le pied hors de la maison. Sa mère le lui interdit. Ses craintes finissent par s'apaiser. Un jour, la mère entend un bruit étrange dehors. Elle regarde par la porte et se met à hurler. « La fin du monde est à notre porte. Si mes yeux ne me trahissent pas, un serpent noir rampe en direction de notre maison. Pauvre de toi, ma fille. » Mirzan est livide. Elle tremble de la tête aux pieds. « C'est moi qu'il vient chercher. » Elle claque la porte et empile devant le battant tout ce qu'elle possède, afin d'en empêcher l'ouverture. Puis, elles vont se cacher dans un coffre. Elles osent à peine respirer. Le serpent est de plus en plus proche, son corps sinueux glisse sur le chemin et fait résonner l'écho dans la steppe. Arrivé devant la porte, il tente de l'ouvrir, mais elle résiste. Il se love en fermant 7 anneaux, se dresse et bondit brusquement. D'un coup de tête, il fracasse la porte, puis se dirige vers le coffre qu'il brise d'un coup de queue violent. Mirzan est morte de peur, elle s'évanouit. Le serpent saisit son corps inerte dans sa gueule énorme et l'emporte vers la rivière. La veuve hurle de douleur et tente de les suivre pour retenir sa fille, mais peine perdue. Elle voit, impuissante, l'énorme serpent disparaître dans les profondeurs de la rivière, emportant avec lui Mirzan, la prunelle de ses yeux. La pauvre femme, accablée de chagrin, rentre dans sa vieille hutte et pleure la disparition de sa fille. L'une après l'une, les années passent. La veuve est très vieille maintenant. Elle a le dos voûté et ses cheveux sont entièrement blancs. Elle passe ses jours devant sa porte, le regard vers la rivière, à l'endroit où elle a vu sa fille pour la dernière fois. Elle sait que Mirzan est morte et pourtant, elle l'attend. Un jour, assise comme à son habitude, sur le seuil de sa porte, la vieille femme aperçoit une silhouette, une belle femme, vêtue comme une reine, avance vers elle. Elle tient par la main un petit garçon et une petite fille. La vieille se met à trembler. Croyant à un mirage, elle dit pourtant « Je deviens folle, ma Mirzan, c'est bien toi ?»« C'est moi. » Elles tombent dans les bras l'une de l'autre, échangent des baisers. La vieille n'en croit pas ses yeux. Quand ils s'installent dans la hutte, la mère demande « Je pensais ne plus jamais te revoir. D'où viens-tu ?»« Je vis dans le royaume du fond des eaux. Mon mari en est le seigneur. Je suis la plus heureuse des femmes. » Mais je me languissais de toi, mère, je voulais te présenter nos enfants. Nous passerons la journée avec toi et nous repartirons ce soir. Comment ? Es-tu en train de me dire que tu vas retourner chez ce maudit serpent ? Tu vas abandonner une fois de plus ta mère et pleurer ? La vieille veuve se promet de ne plus jamais les laisser repartir. Mirzan la laisse parler et lui répond d'une voix apaisante. Mère, mon mari nous attend au bord de la rivière à la tombée de la nuit. Je l'aime et il est le père de mes enfants. C'est l'homme le plus aimant qu'il soit. C'est l'homme le plus aimant qui soit. C'est seulement quand il est sur la terre qu'il prend l'aspect d'un abominable serpent. Dans son royaume, c'est un guerrier d'une grande beauté, comme il n'en existe nulle part au monde. La vieille hoche la tête. Elle cherche un moyen pour la garder à ses côtés. C'est ton destin, ma fille. Tu feras comme tu l'entends. Mais comment retrouveras-tu le chemin qui mène jusqu'au royaume du fond des eaux? Après le coucher de soleil, j'irai sur la rive et j'appellerai mon mari. Ahmed, Ahmed, c'est moi ta femme avec tes deux enfants. Viens, mon bien-aimé, jaillis des profondeurs. Et là, il viendra nous chercher tous les trois. La mère éclate en sanglots. Si tu ne veux pas rester vivre ici, tu peux au moins passer une nuit dans la maison de ton enfance. Mirzan refuse. Sa mère insiste et pleure. Mirzan hésite. Elle a pitié de sa vieille mère. Celle-ci pleure encore et Mirzan finit par accepter de passer la nuit avec elle. La veuve est ravie. Elle se sent rajeunie et rit. À la tombée de la nuit, Mirzan et ses enfants, épuisés par leur longue journée, s'endorment. La vieille femme n'attendait que ça. Elle sort doucement de son lit. Se faufile sur la pointe des pieds dehors, prend sa hache et va à la rivière. Elle s'accroupit au bord de l'eau. Elle appelle de sa voix la plus douce. « Ahmed, Ahmed, c'est moi ta femme, avec tes deux enfants. Viens, mon bien-aimé, jaillis des profondeurs. » En un clin d'œil, l'eau s'agite et le serpent est là. Il scrute l'obscurité et dit d'une voix tendre. « Te voici enfin, ma Mirzan, je t'attendais et me languissais de toi et de nos enfants. » La vieille ne perd pas un seul instant. D'un coup de hache, elle coupe la tête du serpent. L'eau de la rivière se teinte de rouge. La veuve rentre chez elle et se recouche comme si de rien n'était. Au petit matin, Mirzan se lève et réveille ses enfants. Elle fait ses adieux à sa vieille mère et lui promet de revenir la voir un an plus tard. Elle prend ses enfants par la main et se dirige vers la rivière. Tout en marchant, elle appelle son mari. « Ahmed, Ahmed, c'est moi ta femme, avec tes deux enfants. Viens, mon bien-aimé, jaillis des profondeurs. » Seul le silence lui répond. Elle ne sait pas pourquoi son cœur se serre, elle a du mal à respirer. Elle est au bord de l'eau, quand elle aperçoit la tête ensanglantée du serpent dans l'herbe et la rivière teintée de sang. Mirzan comprend. Elle pleure toutes les larmes de son corps et couvre ses enfants de baisers. « Mes adorés, j'ai été imprudente. À cause de moi, vous n'avez plus de père. Mes orphelins, prenons le deuil. Toi, ma fille, tu seras une hirondelle et tu voleras au ras de l'eau jusqu'à la fin de tes jours. Toi, mon fils, tu seras un rossignol et tu chanteras dès l'aube pour le restant de tes jours. Moi, je serai un coucou et j'errerai d'un lieu à l'autre en me languissant de mon époux, en pleurant « coucou ». À peine a-t-elle prononcé ces paroles que tous les trois se transforment en oiseaux, battent des ailes et prennent leur envol.
Merci à vous pour votre écoute et à bientôt sur RDWA.